à la bonne fête de Notre-Dame de Fatima. C'est vrai. C'est quelque chose, Notre-Dame de Fatima. Ces millions de Portugais qui vont là, qui se rassemblent 3 ou 4 fois par an, pour être 1, 2, 3 millions. C'est une espèce de Jérusalem de l'Europe, ça. Hein, vous avez été peut-être là. Ah bon? Et on arrive, il y a une esplanade gigantesque, immense, pas à perte de vue, mais presque. Et alors c'est un peu remonté comme ça, ça descend vers la basilique. Et il y a une porte tout à fait en haut, je sais pas combien ça fait de longueur. Alors ils se mettent à genoux là-bas à la porte, comme si c'est une espèce de comme si c'était pas un arc de triomphe, mais. Et puis ils se mettent à genoux, ils descendent à genoux, comme ça. Jusqu'à la petite capelle, là. Il y a des gens qui faisaient des kilomètres à genoux, comme ça. Ils ne se sentaient pas dignes d'arriver à l'esplanade. Si ce n'est qu'à genoux. Quand on y allait, je me rappelle, avec on faisait comme eux, on se disait, bon, très bien, on va se mettre à genoux, mais au bout de quelques centaines de mètres, les genoux, ils étaient ensemble. Hein. Mais bon, c'est la pénitence, hein. Faites pénitence pour les pécheurs. Il ne faut pas qu'il y ait des pécheurs qui aillent en enfer. Il ne faut pas qu'il y ait des pécheurs qui aillent en enfer. Saint-Michel Archange leur a bien appris la prière, non, arrachez-nous au feu éternel de l'enfer. C'est quand il y a chaque rosaire. Notre-Dame du Rosaire est apparue là. C'est la Jérusalem. C'est un peu la Jérusalem des pauvres. C'est le pays d'Europe le plus pauvre, le Portugal. Alors aujourd'hui, c'est sûr, on le sait, bon, c'est pas. On va pas s'arrêter là-dessus, mais. Ils ont mis 4000, hein, des milliers de soldats, mais alors, faut voir, c'est impressionnant. Hein. Ils sont casqués, bardés de trucs, des mitrailleuses comme ça, énormes. Hein. Pire que dans les films. Hein. Et ils arrêtent les gens, et s'ils voient quelqu'un, paf, 400 euros d'amende. Mais bon, 400, ça doit représenter 3 mois de salaire là-bas. Je sais pas. Il faut surtout pas qu'il y ait une prière à Fatima, hein. On a obtenu qu'il n'y ait pas de prière à Rome, qu'il n'y ait pas de prière dans les églises. Fatima, c'était terrible. Notre-Dame de Fatima. Voilà, en tout cas, c'est une. Nous, ça nous dérange pas, parce que on y va quand même, hein. Puisque la place est vide, c'est que voilà, on peut y aller. Donc on y va. Alors aujourd'hui, on y va tous. Voilà, c'est un 13 mai d'ailleurs que. Vous vous rappelez, c'est un 13 mai que le pape Jean-Paul II, quelqu'un lui a tiré dessus avec une balle, que j'ai vu de mes yeux, la balle, parce qu'elle est dans la couronne, dans un de Fatima, là-bas, la capella. Elle fait 3 cm. Elle est grosse, énorme. Elle a traversé comme ça. Elle a aussi fait son pèlerinage, cette balle, parce qu'en le frappant, hein, d'après les radios, etc., elle a contourné... 3 organes vitaux, la colonne, les aortes, etc. Elle a contourné, et est sortie par derrière. Et elle n'a pas explosé. Donc, et à un moment donné, on faisait une litanie des 13 mai, alors, chaque année, quelque chose. Mais évidemment, faut fouiller, quoi. Ben, le 13 mai 83, je crois, c'est ça. Il y avait des grands mouvements, ça allait pas bien, et la guerre mondiale entre l'Union soviétique et puis l'Occident. Donc, ils avaient programmé, on le sait aujourd'hui, de déclencher une troisième guerre mondiale. Et tous les arsenaux nucléaires étaient remplis à Mourmansk. On a de la mer Baltique, tout ça. Ben, le 13 mai. Il devait faire ça fin mai. Et bien, le 13 mai, la Vierge est rentrée dans les arsenaux. Hein. Elle a fait exploser toutes les charges nucléaires qui étaient dans ces arsenaux de Mourmansk. Et je crois qu'un truc extraordinaire, il n'y a pas eu de mort. En tout cas, ils n'ont pas pu déclencher la Troisième Guerre mondiale à cette époque-là. Le gouvernement du monde du mal redoute Notre-Dame de Fatima. Elle redoute la prière des pauvres à genoux. Elle redoute la pénitence. Elle le redoute. Bon. Pourtant, ils n'ont rien à redouter parce que ils ne devraient pas. Parce que ça n'arrange personne, vous savez. L'esclavage du péché, on est mort au péché. C'est vrai, on est mort, on est déjà mort, nous. Le péché pour nous, on vit plus du péché, je veux dire, on est mort au péché. Le monde du péché, on est, à ce monde-là, on est mort, on est mort. On est mort au péché, c'est Dieu. On vit, si on vit sur la terre, c'est pour Dieu. Mais on est ressuscité, donc on vit pour Dieu. On vit pas pour le péché. Et si on est passé par la mort du péché avec Jésus, il n'y a strictement rien à redouter, quoi. Nous leur disons d'ailleurs, n'ayez pas peur. C'est pour vous qu'on vit. On vit sur la terre pour Dieu et pour vous, pour que vous soyez protégés. Pour que vous puissiez mourir vous aussi au péché, pour que le péché soit plus votre vie continuelle, quoi. Nous sommes morts au péché. Tout a brûlé en nous. Le feu de Christ, le feu de Jésus, nous a saisis. Le feu du Saint-Esprit nous a brûlé. C'est Jésus qui vit en nous, c'est Dieu. Nous, on vit pour Dieu. Dieu est venu vivre pour nous. Dans l'Esprit Saint, il vient vivre pour nous. Alors, nous, on vit aussi pour lui. Et puis, c'est du feu qui brûle tout, qui nous rend immortels, parce que la mort n'a plus aucune prise sur nous. Le péché ne nous a... Il est mort. Nous sommes morts au péché. Ben, après tout, c'est merveilleux, ça. Et si on voulait, on peut tout vous donner, si vous voulez. On peut tout vous donner. Nous, ça nous est égal, puisqu'on se fiche pas mal. Du moment que notre cœur bat, brûlé par Dieu, brûlé par la mort de Dieu, brûlé par l'Esprit Saint. Nous sommes immortels, hein. La mort ne peut pas nous atteindre. On peut courir partout, hein. On peut voler partout, hein. On peut, et c'est ce qu'on fait, on se gêne pas, on va dans le cœur de chacun, on marche sur les pas de Jésus partout où il va, et lui il va partout où il y a une petite éclair de oui qui peut commencer à apparaître. Et alors nous on va avec Jésus partout où il va. On est entièrement englouti, consacré dans la vie de Dieu en Jésus, et la vie, notre vie est entièrement brûlée, consumée, elle exhale son parfum, une espèce de feu blanc qui fait qui immaculé, un feu incré qui est en nous. Ce feu incré qui sort du tombeau au cœur de Jérusalem. C'est ça, au cœur de Jérusalem. Il y a un tombeau et puis il y a le feu, un feu incré qui sort et qui allume notre cierge. Voilà. Alors on est en même temps dans l'octave de Jeanne d'Arc. Alors ça c'est beau ça. On est dans l'octave de la solennité de Jeanne d'Arc. Alors là, qu'est-ce que c'est magnifique pour nous ça. Parce que l'Église, le ciel, le Saint-Esprit en nous et partout autour de nous, le Dieu qui vient devant nous, le feu qui est derrière nous, le monde angélique embrassé de manière séraphique, sans limite et sans fin, qui nous enveloppe, qui nous opombre, qui met ce qu'il a à l'intérieur de nous, nous a donné Jeanne d'Arc, nous a donné une grâce que jamais dans le monde le peuple de Dieu n'a reçue. Nous sommes dans une semaine où on reçoit de Dieu une grâce que jamais les enfants de Dieu n'ont reçue sur la terre. Cette semaine est formidable. C'est une semaine extraordinaire. Et il y a quelque chose de tellement extraordinaire que on en prend conscience, la reine du véritable Israël de la fin nous est donnée par l'Église de manière solennelle pour aller encore plus loin que toutes les grâces de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est impressionnant. Et en plus, dans une maternité divine de Marie, infailliblement donnée en nous, pour donner à ce feu qui est à l'intérieur d'amour, cette présence de Dieu, pour donner une intrépidité, un parfum, une vastitude, une invincibilité, une spensalité, un parfum de noces, quoi. Fait que le lien qu'il y a entre Dieu et nous et Dieu, il n'y a plus d'espace intermédiaire que cette jeunesse, cette lumière, cette chevauchée extraordinaire. Jeanne, la reine du monde nouveau, s'associe au roi d'Israël, c'est-à-dire s'associe au royaume de Dieu désormais accompli, s'y fondant l'un dans l'autre pour nous emporter avec nos anges, par obombration, hein, mais aussi par fulgurante manifestation d'amour, de feu. Pour ouvrir toutes les portes, et toutes les portes s'ouvrent, et en particulier les portes du cœur ouvert, pas seulement déchiré, c'est beaucoup plus largement s'ouvrant devant elle. Elle s'approche, Jeanne, elle s'approche dans sa chevauchée admirable, immortelle, embrassée, sacerdotale, féminine, responsable, glorieuse, avec son corps transverbéré, transglorifié, et c'est avec en elle et avec elle, en communion avec elle, que nous faisons cette chevauchée. nous laissant emporter de manière admirable. Et voyant toutes les portes qui s'ouvrent, du cœur tout l'horreur, Immaculée de Marie, Jésus-Joseph, du sacerdoce d'amour éternel, victimal, où le monde angélique lui-même lui donne une vastitude sans limite et sans fin. Et ses portes s'ouvrent, nous passons, et nous nous engloutissons avec elle, et nous allons en Dieu et Dieu en nous. Et il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de mur, il n'y a plus d'obstacle entre Dieu et nous, parce que c'est la divine volonté de Dieu sur la Jérusalem véritable qui est en train de s'opérer par le ministère de Jeanne. Et c'est une grâce qui nous est donnée, parce que c'est une grâce qui nous est donnée. Il suffit simplement de nous consacrer, de nous donner, de vivre en elle, de vivre en charité fraternelle, en charité, en amour, en de lumière, en courage et en force. Eh bien, on ne la quitte pas, on ne la quitte pas. On n'a que pas d'une seule ombre ombration. S'il y a des ombres en nous, alléluia! Chaque ombre en nous est l'occasion d'une ombre ombration pour nous introduire et nous laisser introduire et emporter avec elle dans cette chevauchée admirable. Alors, nous lisions, on peut lire à chaque fois une des strophes de l'hymne que l'Église catholique chante pour la solennité de Jeanne d'Arc. On est dans l'octave, alors voilà, on a déjà dit que était revêtue, était la cuirasse de la justice, du bouclier, du casque, et on avait, et on continue, il faudrait ça, pour savoir par cœur tout ça, mais voici la strophe suivante. Voici que Jeanne a levé sa main vers toutes les nations de la terre. Dans sa droite, elle vit la très sainte Trinité. Et elle en est le réceptacle. Et ce qui rebondit dans elle, c'est sa main. Elle a levé la main vers toutes les nations, exce levavit ad gentes mes manum suam. Et dans sa gauche, elle a l'étendard. Et qu'elle a dressé, qu'elle a exalté, exaltavit, l'étendard du Seigneur de l'univers, et du ciel et de la terre. Elle a dressé l'étendard du Seigneur. Vers tous les peuples, vers toutes les multitudes, en direction de toutes les multitudes, ad. Pour mettre en fuite toutes les parties contraires répandues dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est l'ange Saint-Michel qu'on a fêté 2 jours avant le 8 mai, qu'il a enseigné comme il a enseigné notre Dame Fatima. Son ange Angelus Eius, son ange, l'a gardé à l'intérieur de lui, Jeanne. Parce qu'on dit, elle est où maintenant? C'est l'ange Saint-Michel qui l'a gardé à l'intérieur de lui. Custodivit te am. Lorsque elle est partie, Il l'a prise et l'a gardée à l'intérieur de lui. Et inc euntem. Là. Et ibi comorantem. Et inde revertantem. Atque in medio ignis. Non derelequit eam. Alors là, je traduis. De toute façon, quand donne Jésus, c'est Jésus qui donne le texte d'une messe. Hein. Donc, et voici que son ange l'a prise, l'a gardée à l'intérieur de lui. Lorsqu'elle est partie, durant son séjour au milieu d'eux. Et lorsque elle revient vers nous, et lorsqu'elle revient, et que au milieu du feu, nous voyons tous qu'elle ne l'abandonna pas. C'est vrai, au milieu du feu. Son cœur a continué à battre. Il l'a gardée en elle pour qu'elle parte et qu'elle revienne pour sa véritable mission, pour sa véritable mission au milieu de nous. C'est l'Église qui dit que c'est Saint-Michel Archange qui se l'est incorporé, pour ainsi dire, dans sa présence brûlante du feu, qui brûle en lui sans limite et sans fin devant la face de Dieu, au sommet du monde angélique, il l'a incorporé pour qu'elle revienne immortelle à travers le feu, pour lever son étendard et sa main droite vers toutes les multitudes, pour faire partir toutes les parties adverses dans notre terre. C'est la reine du monde nouveau. C'est la reine et le roi, c'est le sacerdoce, c'est l'intermédiaire, c'est la médiatrice. Et ce n'est pas sans rentrer dans l'autel et de la bondir à travers les portes de la Jérusalem. Nous allons tous vers la Jérusalem d'en haut, qui devient la Jérusalem qui est la nôtre. Et cette course intrépide, c'est une grâce qui nous est donnée à travers elle. Du côté féminin, de l'épouser dans la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, qui passe, va dans la première personne de la Très Sainte Trinité et revient de la personne de la Très Sainte Trinité tout en exactant sa demeurance, embrasée, et qu'il n'y ait plus que cette sponsalité, qu'il n'y ait plus que cette féminité de la Jérusalem dernière. De la Jérusalem de l'Église. Et nous sommes l'Église. Parce que si nous sommes la vigne et les sarments, nous sommes dans la vigne et dans les sarments. Alors voilà le fruit. Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ça, c'est une prière. C'est un état intérieur. C'est une transformation de notre monde. C'est une recréation. Un réengendrement de la terre qui se fait avec elle. Avec elle, dans l'autel du cœur douloureux immaculé de Marie ouvert. Voilà, alors, comme toujours, et bien on termine par du coup ce que l'Église nous a donné comme à l'office de matine, et bien dans cette chevauchée extraordinaire de notre foi, de notre emportement, de notre chevauchée avec elle, dans une communion merveilleuse dans une super venue de notre vie sur la terre, dans une action de grâce inouïe, quoi, dans une transformation réelle, efficace, universelle, passant avec l'amour de Dieu embrasé comme ça dans son cœur partout où il y a une possibilité d'écarter l'adversaire. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et j'ai vu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue descendre du ciel, du face-à-face de Dieu, elle descendait, prête pour les noces, comme une épouse, paraît pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Et alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je crée toutes choses nouvelles. Et il t'y écrit, car ces paroles sont dignes de foi, elles sont véritables. Puis il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi je donnerai l'eau de la source de vie. De la source de vie. Gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon engendré. Quant au lâche, perfide, être abominable, meurtrier, débauché, sorcier, idolâtre et tous les menteurs, la part qui leur revient, c'est l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Voilà ce que l'Église nous dit. Voilà ce que Dieu nous dit. Voilà ce que le ciel nous dit. C'est que la grâce qui est la nôtre en ce moment, ces jours-ci, c'est une grâce qui nous dispose à être éveillés, à ouvrir nos yeux, et à regarder vers la Jérusalem qui descend du ciel, venant de Saint-Joseph, de l'autel, du trône, jusqu'à nous, pour envelopper, imprégner l'humanité tout entière dans une assomption, dans une assomption nouvelle, dans une assomption définitive, une assomption de grâce, une assomption de paix, une assomption de communion, une assomption de splendeur, une assomption d'amour. Être extraordinairement éveillé, ouvrir les yeux, voir et recevoir comme engendré de Dieu. Pour toutes les multitudes, et pour toute la nature humaine, cette grâce qui vient de Dieu, pour ceux qui demeurent en lui, pour ceux qui sont en qui sont le réceptacle, qui sont les tabernacles, qui sont l'arche d'alliance de sa présence immaculée, mariale, paternelle et royale.